En 1967, un an après le séjour d'Oistrakh en Israël, la guerre des six jours avait entraîné la rupture des relations diplomatiques israélo-soviétiques et une campagne anti-sioniste était aussitôt mise en place par le Kremlin. De nombreux juifs du RSS avaient demandé leur visa pour la Terre Sainte, mais cette alia est refusée pour un très grand nombre qu'on appelle de ce fait les « refusniks », souvent au prétexte que le demandeur a été en contact avec des informations soi-disant confidentielles. En février 68, une pétition officielle soviétique dénonce le gouvernement israélien pour ses invitations à émigrer. Et ce document, signé par plusieurs intellectuels juifs, on le soumet à David Oistrakh. La suite est notamment un invraisemblable cambriolage chez Oistrakh. La suite nous est ici racontée par Rostislav Dubinsky, premier violon et fondateur du Quatuor Borodine, interrogé par Mildred Clary.
The Soviets made it official their statement first.
Aussitôt, en contrepartie, les Soviets ont fait une déclaration officielle comme quoi on se mêlait des affaires intérieures de la Russie.
By all leading Jewish artists, musicians, writers.
Et on envoyait une lettre signée par tous les premiers artistes, musiciens, écrivains, juifs.
Israelis call,
tous ont dû signer la lettre
Jewish people together with other nationalities
qui condamnait Israël, disant que l'ensemble du peuple juif de l'Union soviétique s'y trouvait très heureux et que pour rien au monde, il partirait, et surtout pas pour Israël. La seule personne à n'avoir pas signé cette lettre, la seule, c'est David Oistrakh. Et on l'a puni. Un camion s'est arrêté devant son appartement.
In uniform, asked the concierge to open the apartment because
et trois hommes en uniforme ont demandé au concierge d'ouvrir l'appartement.
His belongings to country house,
car Oistrakh souhaitait qu'on lui amène ses affaires à la campagne.
He was going to spend his recordings, his archive, and
tous ses enregistrements,
and
ses archives.
And it
de
was
la
quite
musique.
Open, and even some passersby
cette femme a aidé. Cela s'est passé ouvertement. Des passants ont même prêté main forte pour hisser les valises lourdes dans le camion qui a ensuite disparu.
Then in 2 days, David Oistrakh came back, and the concierge told
deux jours
him,
plus tard,
Mr. Oistrakh, everything was according to your wish.
David Oistrakh
so
rentre chez lui.
Is sent to your country house.
La concierge l'informe que tout s'était bien passé tel qu'il l'avait souhaité, que tout
That's
a été envoyé à la campagne.
He went back to his apartment, and everything was
il
empty.
A dit, mais je ne suis pas
everything
au courant.
Was taken away.
J'en suis surpris.
Including his archive,
il est rentré dans son appartement et il n'y avait plus
books,
rien. Tout
music,
avait disparu.
Tapes,
archives,
recordings,
correspondances, livres,
photos,
musique,
from the walls,
enregistrements,
what
les photos des murs,
value to only to Oistrakh.
Tout ce qui ne pouvait avoir de valeur que pour lui.
The personal gift
par exemple, la clé de Jérusalem.
Like symbol, you can open,
que Golda Meir lui avait remise, le symbole de bienvenue.
There was a movie City Light, a gift from Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin lui avait offert son film Les Lumières de la Ville, disparu aussi.
It was a punishment because
c'était sa punition.
Well, we thought it was announced like a robbery. It was
on l'a annoncé dans le monde entier comme étant un cambriolage.
Yes, the night the famous Russian violinist David Oistrakh was robbed. But we knew it was not.
Mais nous savions à quoi nous en tenir.
In 2 months, they returned everything.
2 mois plus tard, tout lui a été restitué.
Incroyable histoire que ce cambriolage du 27 octobre 1968 dans l'appartement moscovite des Oistrakh, Ruth Chkalova, tandis que David et son épouse Tamara sont en Italie. La version officielle accuse deux frères délinquants, Boris et Sergueï Nikonov. Parmi les nombreux objets disparus, figure un étui à cigarette en or, jadis offert par Atatürk, mais pas les précieux violons du maître, restés intacts dans l'appartement. Cette histoire rocambolesque, dont les récits ne sont d'ailleurs pas toujours très cohérents, il faut le souligner, cette histoire de l'appartement cambriolé des Oistrakh va même inspirer les frères Weiner, Arkady et Georgi Weiner, auteurs du roman policier « Une visite au Minotaure », qui deviendra même un téléfilm à succès en 1987. Le scénario a été modifié, car ici les cambrioleurs s'emparent d'un précieux Stradivarius dans l'appartement d'un violoniste baptisé Lev Poliakov. Lev comme le pianiste Lev Oborin, et Poliakov comme l'ancien rival d'Oistrakh, le violoniste Miron Poliakov. Cette mésaventure va encore fatiguer le cœur d'Oistrakh déjà fragile. Mais elle ne va pas ralentir ses activités artistiques, d'autant que le violoniste a encore rendez-vous avec son ami Dimitri Shostakovich. En 1967, le compositeur avait écrit son second concerto pour les 60 ans d'Oistrakh, mais il s'était trompé d'une année. Donc en 68, Shostakovich récidive en temps et en heure avec une sonate que les deux hommes jouent chez le compositeur. L'enregistrement dans son salon sur un piano droit est assez médiocre et le pianiste Shostakovich est bien malade, fatigué, mais c'est une archive des plus émouvantes. Voilà donc David Oistrakh et Dimitri Shostakovich côte à côte en 1968 autour de cette nouvelle partition qui sera créée le 8 janvier 69 avec au piano Mieczysław Weinberg dont il a été plusieurs fois question dans cette série. Quelques mois plus tard, Oistrakh parviendra à jouer cette sonate de Shostakovich avec Sviatoslav Richter malgré les très rares disponibilités du pianiste. Et on peut s'amuser au petit jeu des comparaisons entre les deux enregistrements. Voici Oistrakh et Richter. Je me souviens de Dimitri Dimitrievitch que nous avions attiré sur scène pour saluer après que nous avions fini de jouer sa sonate et qui nous chuchotait « Je crains le scandale, je crains le scandale ». Il avait peur de tomber. Mais l'essentiel était le miracle de David Oistrakh et de sa musicalité. Il restera comme le premier violoniste du monde. Incomparable. Que je suis heureux d'avoir pu faire de la musique avec lui. Voilà ce que déclarait le pianiste Sviatoslav Richter dans des propos rassemblés après sa mort par Bruno Mont-Saint-Jean. Après la mise à l'écart de Khrouchtchev en 1964, le dégel politico-culturel qu'il avait mis en place s'est rapidement heurté à la rigueur dogmatique de Brejnev. En 1966, se déroule le premier procès politique depuis les années 30, celui des écrivains Yuli Daniel et Vassili Sinyavski, envoyés au goulag pour « activité anti-soviétique ». Ce jugement est aussitôt condamné par Andrei Sakharov, l'un des pères de la bombe H, mais aussi militant contre la course aux armements. C'est le temps de la nomenklatura face à la dissidence d'une poignée d'opposants. En 1969, Sakharov a même participé avec 14 autres dissidents, hommes et femmes, à la création d'un comité pour la défense des droits de l'homme en URSS. Sakharov obtiendra en 1975 le prix Nobel de la paix. Il sera arrêté en 1980, mis en exil intérieur, maltraité à Gorki, et il deviendra député juste avant sa mort en 1989. Ce monde de la dissidence soviétique va connaître un autre porte-drapeau mondialement célèbre. L'écrivain Alexandre Solzhenitsyn.
Жизненный опыт мой крутой. Тюрьма, лагерь просто повернули мою работу и обогатив меня этим опытом, заставили её изображать.
Ma dure expérience de la vie en prison et dans les camps a changé le cours de mon travail. J'ai été enrichi par cette expérience et je devais l'exprimer. C'était la voix de Solzhenitsyn, l'auteur d'une journée d'Ivan Denisovitch, du pavillon des cancéreux, du premier cercle et plus tard de l'archipel du goulag. Solzhenitsyn reçoit en 1970 le prix Nobel de littérature, 12 ans après celui de Boris Pasternak, 5 ans après celui de Mikhail Cholokhov, l'auteur du roman Le Don paisible. Après l'évocation de sa vie dans les goulags, évocation tolérée avec réserve par Khrouchtchev, Solzhenitsyn est mis à l'index par le régime de Brejnev qui le plonge dans un véritable dénuement. Totalement démuni, l'écrivain est invité à s'installer dans la datcha des Rostropovitch, à Joukovka, dans la banlieue de Moscou, où l'on pouvait également croiser Sakharov et Chostakovitch. À l'automne 69, Solzhenitsyn est accueilli à Joukovka par le violoncelliste et par son épouse chanteuse Galina Vishnevskaya dans la maisonnette des invités. C'est là qu'il écrit une lettre ouverte réclamant la suppression de la censure, ce qui provoquera son expulsion de l'Union des écrivains du RSS. Dans son autobiographie, Galina, la soprano raconte « Lorsqu'en 69, Alexandre Solzhenitsyn vint s'installer chez nous, dans notre datcha, un autre ami, l'éminent violoniste David Oistrakh, évoqua le souvenir des sinistres années 30. « Je ne veux pas jouer les idiots avec vous, dit-il, mais moi, je n'aurais jamais fait ce geste. Si vous voulez la vérité, j'ai peur. » Ma femme et moi avons connu l'année 1937, où, nuit après nuit, chacun des habitants de Moscou redoutait d'être arrêté. Dans notre immeuble, il n'y a eu que notre appartement qui a échappé aux rafles. Tous les autres locataires ont été emmenés Dieu sait où. Depuis ce moment-là, je sais que je ne suis pas fait pour le combat.
Thank you.
Mai 1969, Oistrakh et Rostropovitch, en tournée à Cleveland, jouent le double concerto pour violon et violoncelle de Brahms sous la direction de Georges Sell. L'année suivante, la ministre de la Culture, Yekaterina Furtseva, demande à Oistrakh, à Rostropovitch et à Emil Gilels, membres des jurys au concours Tchaïkovski, de favoriser les candidats soviétiques, car, dit-elle, on fête alors le centenaire de Lénine. Aussitôt, sur un ton narquois, Rostropovitch lui demande si on ne peut pas reporter le concours après le centenaire de Lénine, ce qui fait doucement rigoler le violoniste. Il n'empêche que le même Rostropovitch, dans un documentaire de Bruno Mont-Saint-Jean, évoque cette scène terrible qui met en cause David Oistrakh en personne. En arrivant à Paris, à l'hôtel Windsor, je me suis trouvé avec David Oistrakh. David m'a dit « Slava, allons-nous promener ?» En marchant dans les rues, il m'a fait un aveu. Il m'a dit « Slava, j'ai la plus grande estime pour la pureté de ta nature, ton audace et tout ce que tu fais. Je suis prêt à m'agenouiller devant toi. Mais si demain, tu lis dans la Pravda une lettre remplie d'accusations contre toi et que j'ai signée, ne m'en veux pas. Trouve la force de me pardonner. » Voilà donc ce que Mstislav Rostropovitch racontait face caméra, évoquant ce début des années 70 où le violoncelliste passe du statut d'artiste du peuple à celui de paria du fait de ses soutiens publics à Solzhenitsyn. Nous n'avons pas retrouvé ce texte de la Pravda, soi-disant signé par Oistrakh et dénonçant les engagements de Rostropovitch. En revanche, la même Pravda publiera le 3 septembre 73 une lettre ouverte condamnant le physicien Andrei Sakharov, futur prix Nobel de la paix. Lettre au bas de laquelle on peut lire les noms des compositeurs Kabalevski, Chtchedrine, Khatchaturian, Khrennikov, mais aussi Dimitri Shostakovich. Rostropovitch lui en fera aussitôt le reproche, mais sa veuve Irina Shostakovich affirmera plus tard que le compositeur n'a jamais signé cette lettre contre Sakharov, en faisant le mort à l'appel de la Pravda. Malgré cela, le nom de Shostakovich figure bien parmi les signataires. Alors revenons à la musique, toujours avec David Fiodorovitch Oistrakh, qui reçoit en juin 1969 le titre de docteur honoris causa au King's College de Cambridge, revêtu comme il se doit de la robe de cérémonie et du couvre-chef académique. Thank you. Septembre 1969, EMI rassemble une équipe de rêve autour du triple concerto de Beethoven. Oistrakh, Richter, Rostropovitch et Karajan. Pour cela, le chef d'orchestre demande d'emblée 10 000 livres sterling d'avance sur salaire. En 1955, on avait déjà songé à Herbert von Karajan pour les débuts d'Oistrakh aux États-Unis. Mais c'était 10 ans après la fin de la guerre. L'encartement nazi de Karajan avait suscité une levée de boucliers. En 1969, de l'eau est passée sous les ponts. Et le tout-puissant General Music Director de l'Orchestre Philharmonique de Berlin n'est plus une persona non grata. Ce qui n'empêche pas les tensions. Le pianiste Sviatoslav Richter est en désaccord avec les tempi de Karajan. Et Richter trouve également le violoncelle de Rostropovitch trop sonore. Ce dernier se range du côté du chef, qui se plaint de ne pas entendre le pianiste. Au milieu, Oistrakh reste imperturbable. Mais les techniciens se plaignent du dépassement de la durée de travail initialement prévue. Bref, cet enregistrement du triple concerto de Beethoven est un semi-échec. Moins convaincant que la version du trio Oistrakh en 58 à Londres avec le chef Malcolm Sargent. Mais ce disque Karajan connaît un très beau succès commercial grâce à cette affiche de star. Le 2 février 1970, le New York Times publie un article intitulé « Protesters upset Russians' recital ». Des manifestants perturbent le récital des Russes. Le journaliste Donald Hanahan écrit, je cite, « De jeunes manifestants protestant contre la persécution présumée des Juifs en Union soviétique ont perturbé hier soir le récital du duo David Oistrakh et Sviatoslav Richter, violoniste et pianiste soviétique. » À deux reprises, pendant la troisième sonate de Brahms en ré mineur, de jeunes hommes ont dévalé les allées jusqu'à la scène en hurlant, poursuivis par les agents de sécurité du Carnegie Hall et par la police. Plus tôt, un autre jeune non identifié a couru le long d'une allée, s'est précipité sur la scène et a commencé à crier ce qui ressemblait à « brothers and sisters », frères et sœurs. Il a été repoussé par les gardes et la police, puis expédié à l'extérieur de la salle. Juste avant le récital, un groupe d'une vingtaine de jeunes gens avait fait le piqué devant le spectacle en distribuant des tracts au nom de la Ligue de défense juive, au 156 de la 5e avenue, appelant le public à rester à l'écart. Les tracts accusaient l'Union soviétique d'avoir refusé à 18 juifs de Géorgie soviétique le droit d'émigrer en Israël et de détenir d'autres juifs dans des prisons. Fin de citation. Le violoniste Leonid Kogan, lui-même juif d'Ukraine, dénoncera, je cite, « des hooligans ». Et on raconte que David Oistrakh, en coulisses, aurait demandé à son ami américain Yehudi Menuhin, avec un petit sourire en coin, « Dis-moi, Yehudi, s'agit-il de mes juifs ou de tes juifs ?» Mars 1970, un mois après leur concert perturbé à New York par des manifestants juifs extrémistes, David Oistrakh et Sviatoslav Richter reviennent dans la grosse pomme au Lincoln Center pour donner de nouveau cette troisième sonate de Brahms, comme on vient d'entendre. Depuis les années 50, ces concerts, ces tournées d'artistes soviétiques aux États-Unis passent forcément par l'impresario Sol Hurok. Solomon Isaïevitch Hurok est né comme Oistrakh dans la communauté juive d'Ukraine. Il était arrivé à New York au tout début du XXe siècle, vivant d'abord de petits boulots. Mais dès 1913, Hurok avait créé une agence de concert au tableau de chasse très impressionnant. Isadora Duncan, Margot Fontaine, Anna Pavlova pour la danse, Marian Anderson, Fyodor Chaliapin pour le chant, Gilels, Richter, Arthur Rubinstein, Michelangeli pour le piano, Rostropovitch pour le violoncelle, Isaac Stern, Efren Cymbalist, David Oistrakh pour le violon. Sol Hurok sera assez mal vu par les autorités américaines pour ses sympathies socialistes. Et il sera mal vu par une partie de la communauté juive américaine pour sa proximité avec l'URSS. Souvenez-vous, l'URSS avait rompu ses liens diplomatiques avec Israël après la guerre des Six Jours et avait condamné Israël pour avoir invité des Juifs de Russie ou d'Ukraine à s'installer en Terre Promise. Oistrakh, nous le disions, avait refusé de signer une pétition contre Israël, ce qui n'a pas empêché des manifestants américains de la Jewish Defense League, la Ligue de Défense Juive, de perturber ses concerts. Mais on en était resté au niveau de la simple protestation verbale. En 1972, Sol Hurok va vivre un drame. Pour le punir d'inviter des artistes soviétiques, comme Oistrakh, des membres de cette ligue extrémiste posent une bombe artisanale dans le bureau de Hurok à Manhattan. L'impresario est grièvement blessé avec 12 autres personnes et l'une de ses secrétaires est tuée sur le coup. Oistrakh, profondément choqué, apprend la nouvelle quelques jours plus tard, dans un mélange de tristesse et de totale incompréhension. Oistrakh, qui dirige ici à Prague, en 1972, le Roméo et Juliette de Prokofiev.
David Oistrakh, le violon et l'étoile rouge, par François-Xavier Chemchak. France Musique.
Thank you.
En janvier 1974, Oistrakh a l'immense joie d'apprendre qu'il devient membre de la prestigieuse Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, la Société philharmonique de Vienne, fondée en 1812 et dont firent partie certaines de ses idoles comme Brahms, Wagner ou Furtwängler. Mais peu à peu, Oistrakh voit une partie de son monde disparaître, avec d'abord une série de décès. Le 6 juillet 1973, la mort du chef Otto Klemperer, avec qui il avait enregistré le plus beau des concertos de Brahms. Le 22 octobre 1973, celle du violoncelliste Pablo Casals, qu'il avait côtoyé à Prague. Le 5 janvier 1974, Oistrakh apprend la mort de son pianiste et grand ami, Lev Aborin, avec qui il avait fait des centaines de concerts, des dizaines d'enregistrements pendant un demi-siècle. Le 13 février 1974, Solzhenitsyn est expulsé du RSS après la publication de l'archipel du Goulag. En mars 1974, c'est l'impresario américain et ami d'Oistrakh, Sol Hurok, qui disparaît à son tour. Le 26 mai, Mstislav Rostropovitch, son épouse Galina Vishnevskaya et leurs deux filles quittent l'URSS pour s'installer en Occident. Trois jours plus tard, Oistrakh l'ignore, mais il donne son ultime récital au Musikverein de Vienne avec le pianiste Paul Badura-Skoda, avec qui il jouait en concert depuis 3 ans. David Oistrakh m'avait accueilli à Moscou, avec sa femme Tamara, d'une façon princière. Ils m'ont invité plusieurs fois à déjeuner ou à dîner. Je ne peux oublier ce qu'il m'a dit un soir, en avalant 6 médicaments, destinés évidemment à surmonter les séquelles d'un infarctus. « Tu vois, Paul, le médecin me dit que si j'arrête de jouer du violon ou de diriger, je pourrais encore vivre des années. Mais quel sens aurait pour moi une vie sans musique ? Mieux vaut mourir plus vite. » La dernière fois que j'ai rencontré David Fiodorovitch, c'était à Stockholm, à l'automne 1974. Après un concert, nous nous sommes retrouvés dans un hôtel et j'ai vu la partition de la 9e symphonie de Beethoven sur la table, à côté de son lit. Il m'a dit qu'il allait la jouer au prochain festival du printemps de Prague. « Comme c'est incroyablement difficile !» me dit-il. J'apprends cette œuvre tous les jours et chaque page est un défi incroyable pour moi. Je surmonte cette partition, je surmonte chaque battement. Voilà un témoignage du chef d'orchestre Gennady Rajesvensky qui nous montre Oistrakh suractif, débordant de projets jusqu'au bout, celui de diriger la 9e symphonie de Beethoven ou encore l'opéra Eugène Onegin de Tchaïkovski. Jusqu'à ce 24 octobre 1974, tandis qu'il dirige au Concertgebouw d'Amsterdam toutes les symphonies de Brahms.
Avec David Oistrakh, mort d'une crise cardiaque ce matin à Amsterdam, la musique a perdu l'un de ses plus grands interprètes actuels. Né en Ukraine, ce violoniste de 66 ans a fait entendre dans le monde entier les maîtres de la musique classique sur son violon, un violon aux cordes d'argent. David Oistrakh était un maître, mais c'était aussi un homme.
David Oistrakh s'éteint à Amsterdam, à l'âge de 66 ans. Hasard politico-culturel, Yekaterina Fourtseva, ministre de la Culture depuis 14 années, meurt exactement le même jour, le 24 octobre 1974. Tout comme Prokofiev était mort exactement le même jour que Staline. Le corps d'Oistrakh est rapatrié à Moscou grâce à ses amis londoniens, Horhauser, qui n'obtiennent pourtant aucun visa pour ses obsèques. À Los Angeles, Yasha Heifetz exige de ses étudiants qu'ils se lèvent pour une minute de silence. Et il écrit depuis Beverly Hills ces quelques mots à Tamara, le 2 novembre 1974. « Madame, dans votre chagrin et votre perte, veuillez accepter ma sympathie et mes condoléances. » Avec l'aide de son fils Igor, Tamara Ivanovna rassemble ses forces pour ouvrir les archives familiales au musicologue Viktor Youssefovitch, pour un livre qui a partiellement nourri cette série d'émissions. Paru d'abord en russe, puis en anglais, avec des écrits de David Oistrakh, des témoignages d'Igor, ainsi que de nombreux autres musiciens, ce livre a été considérablement augmenté en 2017 sur plus de 1000 pages. On y trouve cette émouvante postface de Tamara. La mort de David m'a laissé stupéfaite, même si j'ai vécu des années dans une inquiétude constante pour lui. Quelque chose pouvait-il adoucir la douleur de perdre quelqu'un avec qui j'ai vécu toute ma vie ? Près de 50 ans, dont 20 années à voyager ensemble à travers le monde. Quand David s'est éteint, la torpeur m'a envahi. Accepter son absence était au-dessus de mes forces. Dans les rêves et dans la réalité, son image me hantait. Le foyer que nous aimions tant, tous les deux, avait perdu son charme. Les objets soulignaient leur fâcheuse immuabilité et le fait qu'ils sont plus durables que les hommes. Le silence était incroyablement pesant. Je n'osais pas écouter de la musique. Je devais retrouver le sens perdu de ma propre vie. Malgré mon isolement, des amis restaient en contact avec moi et ils ont insisté. Il faut écrire sur David, parler de lui, aider les gens à le connaître. En raison de mon caractère, je ressentais l'impossibilité de travailler. Mais le livre de Viktor Youssefovitch avait besoin de documents. Alors j'ai commencé à mettre de l'ordre dans nos archives. Il me semblait parfois que j'allais me noyer dans un océan infini de lettres, de critiques, de photos. Et le jour est arrivé où le livre sur Oistrakh était terminé et qu'il était sur ma table. En m'immergeant de plus en plus dans le passé, je me suis rendu compte que cela refermait pour moi le présent. Et Tamara conclut ainsi cette postface. Le livre de Viktor Youssefovitch m'a fait repenser à beaucoup de choses et m'a sorti de la torpeur. C'est pourquoi il m'est si cher. Le 9 août 1975, Tamara et Igor apprennent le décès de leur ami Dmitri Shostakovitch. Quelques mois plus tard, Tamara Ivanovna mettra fin à ses jours en se jetant par la fenêtre de leur appartement 116 au numéro 14 de la rue Tchkalova. Elle avait 70 ans. C'était David Oistrakh dans l'adagio introductif des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach. Igor Oistrakh est décédé de sa belle mort à Moscou en 2021, à 90 ans, après avoir donné au musée Glinka le Stradivarius que la reine de Belgique avait offert à David. C'est désormais son fils, Valéry Oistrakh, évidemment violoniste, qui est l'héritier des violons de Stradivarius, le Bérou, le Marsic, un Vuillaume ou encore un Alto Guarneri, ainsi que de précieux archets. Et l'histoire musicale continue, car Valéry Oistrakh enseigne le violon à son fils Robert, né en 2012. De nombreux concerts ont été organisés en mémoire d'Oistrakh, comme ce récital de son élève Oleg Kagan avec Richter au piano. Rostropovitch et Vishnevskaya aux États-Unis célèbrent également le défunt. Et voici le témoignage du chef d'orchestre Yevgeny Svetlanov. Lorsque Oistrakh a disparu de l'art soviétique, nous avons ressenti une perte gigantesque. En tant que compositeur, citoyen, musicien et artiste, en tant que grand ami, il me manque tellement qu'il s'est exprimé dans l'œuvre que j'ai écrite. Il s'agit d'un poème pour violon et orchestre à la mémoire de David Fiodorovitch. Son art n'est pas éphémère, il ne mourra jamais. Son art a inscrit une page que personne ne pourra jamais arracher à l'histoire de notre musique. Tamara et Igor Oistrakh, qui jouaient ici le poème de Svetlanov dédié à son père, Tamara et Igor sont enterrés aux côtés de David, au cimetière de Novodiavichi, de Moscou, où reposent aujourd'hui les écrivains Gogol, Tchekhov, Bulgakov, Mayakovsky, les metteurs en scène Stanislavski, Eisenstein, les compositeurs Scriabine, Prokofiev, Shostakovich, Miaskovsky, Taneyev, Schnittke, les frères Rubinstein, les chanteurs Chaliapin, Kozlovsky, Vishnevskaya, Liemetchev, les instrumentistes Sofronitsky, Knouchevitsky, Kogan, Richter, Rostropovitch, Nikolayeva, mais aussi des hommes politiques Molotov, Khrushchev, Gorbatchev, Yeltsin. La tombe d'Oistrakh est reconnaissable à un buste le représentant avec un violon, les doigts de la main gauche posés dans les notes aiguës comme une élévation céleste. Pour conclure cette série, permettez-moi un souvenir personnel. Car chaque admirateur de David Oistrakh garde en mémoire sa première rencontre avec cette prodigieuse sonorité. Petit garçon dans la campagne briarde, je saisis un jour un 33 tours de mes parents, montrant une aquarelle de George Sand, un paysage au lac. À gauche, un petit chien écoutant un gramophone, sous le titre « EMI, la voix de son maître ». C'était le chien Nipper, du fameux logo. À droite, dans un cadre noir, la photo d'un violoniste chauve, joufflu, au visage sévère et aux mains potelées. Ce fut également mon premier contact avec l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française. Remerciant encore aujourd'hui mes parents, je conserve toujours précieusement ce disque noir, ce micro-sillon, d'où jaillit, sous le diamant, une musique hors du temps. Juin 1960, salle Wagram à Paris, l'Orchestre national de la radiodiffusion française, dirigé par Otto Klemperer, accompagnait David Oistrakh dans l'adagio du concerto pour violon de Johannes Brahms. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation, à Thomas Guingagne pour la prise de son et à Pauline Boisaubert pour la mise en page du site. L'intégralité de cette saga, David Oistrakh, le violon et l'étoile rouge, vous attend sur le site de France Musique et l'appli Radio France.
En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulnier, à 9h sur France Musique.
La semaine s'ouvre avec des fées, des elfes et toute la fantaisie de Shakespeare.
Le chef espagnol Pablo Heras Casado dirige le Songe de nuit d'été de Mendelssohn et c'est à découvrir demain à 9h.
En piste, toute l'actualité du disque.
En piste, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France. Allegretto, Denis Akershova.
Ce vendredi, c'est vous qui faites la programmation. Cette semaine, nous avons choisi le tableau Les joueurs de cartes de Paul Cézanne, présenté en ce moment au musée Granet d'Aix-en-Provence. Alors, à votre avis, belote, tarot, crapette? Mais surtout, dites-nous quelle musique vous inspire cette toile. Pour voir le tableau et nous envoyer vos propositions, rendez-vous sur le site et l'appli Radio France, page Allegretto. Et on se retrouve ce vendredi pour découvrir ensemble vos idées musicales.
Allegretto, du lundi au vendredi à 10h30 sur France Musique, à retrouver sur le site et l'appli Radio France.